je n'ai jamais aimé avec tant d'amour dans mon cœur. Tu m'as donné le bonheur contre un peu de liberté. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi vrai de ma vie. Avec toi ce n'est plus pareil. Je ne quitte plus la maison. Il y a toujours du soleil et ton sourire à l'horizon. Chaque nuit je viens vers toi. Jour, car c'est un vrai nid d'amour que tu as construit pour moi. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi près de ma vie. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi vrai de ma vie. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai
Ne touchez à rien à votre poste de radio, ne modifiez pas l'adresse de votre navigateur internet. Vous êtes bien sur le 105.4 FM, vous êtes bien sur radiopanique.org et nous venons d'écouter Frédéric François. Non, je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Frédéric François, chanteur belge d'origine sicilienne, auteur de multiples tubes tout au long des années 70 et 80, et celui-ci, on est au début de la décennie des années 70, c'est l'un de ses premiers tubes. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre Frédéric François sur les antennes de Radio Panique, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 octobre 2020 et ce soir, au Cinéma Palace à Bruxelles, aura lieu la première du documentaire Parolier, un documentaire consacré à Rosario Marino, le compositeur, l'auteur plutôt, le parolier attitré et privilégié par Frédéric François, l'auteur donc de multiples tubes qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice de ce documentaire, la fille de Rosario Marino, Rachel Marino. Bonjour Rachel Marino.
Bonjour Julien.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous recevoir ce mardi matin.
Merci.
Pas trop
vous.
Stressé pour la première ce soir?
Non, pas trop stressé. Pour l'instant, ça va encore.
On rappelle donc votre documentaire Parolier. Ce sera ce soir au Cinéma Palace. Et puis, il y aura plein d'autres projections. Il restera à l'affiche du Cinéma Palace pour au moins 15 jours. Avant de parler de ce documentaire, avant de parler de votre père, de sa carrière, du regard que vous portez sur son métier, on va un peu faire connaissance. C'est votre premier documentaire et vous n'avez pas de formation, de réalisation, de formation technique. Vous n'avez pas fait d'école de cinéma. Hein. Votre background, c'est plutôt l'illustration, le graphisme, c'est ça ?
J'ai fait l'ERG, l'école de recherche graphique à Bruxelles, en illustration et vidéo.
Ah, ok.
Donc j'ai fait mes bacs en illustration et j'ai terminé mes masters en vidéo. Et donc ce projet en fait était déjà un projet initié en master 2 en vidéo à l'ERG.
Et c'est finalement le format vidéo qui était à l'origine du projet, ou c'est plutôt l'envie de parler de votre père, l'envie de creuser sa carrière, son métier, et puis vous avez dit, finalement, c'est le documentaire, le format privilégié. Qu'est-ce qui était un peu à l'origine du projet ?
Alors, je me suis posé la question par rapport à mon travail et mes processus de travail en général. Donc que ce soit en illustration, en film, quand je fais de la gravure ou toute autre forme d'art visuel, j'adore travailler sur les motifs répétitifs. Et voilà, arrivé à la fin de mon parcours à l'ERG, je me suis posé la question sur mes procédés justement répétitifs, filmiques, etc. Et je me suis posé cette question, j'étais dans le jardin chez mon père. Et d'un coup m'est apparu que lui avait écrit toute sa vie sur le même type de cahier, avec le même type de stylo et le même type de chansons, de paroles de chansons sur le même thème. Et alors là, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à investiguer de ce côté-là, de voir si j'ai hérité quelque chose de la part de mon père. Et donc est née l'idée de rechercher de ce côté-là.
Et il y a un lien évident et conscient, où vous l'avez découvert pendant ce documentaire, entre la pratique de votre père qui passe par l'écriture, le cahier, le crayon, le bic, qui est fort présent dans votre documentaire, et vous-même qui êtes illustratrice. Donc au départ, votre outil de travail, c'est aussi le papier et le bic.
Oui, je pense que j'ai été baignée là-dedans toute mon enfance. Mon père donc écrivait, j'ai toujours aimé sa graphie. Il dessinait pour nous aussi quand on était enfant. Donc oui, je pense que j'ai été baignée là-dedans. Et puis, je pense que ce qui nous rapproche le plus, c'est peut-être la forme populaire de notre travail. Je pense que le fait que enfin, je pense avoir hérité de la part de mon père de ce côté un peu populaire, où j'ai envie que le travail puisse se raconter à tout le monde et pas seulement à une niche de personnes choisies.
Alors vous nous donnez accès à un métier assez méconnu et sans doute parfois fantasmé, celui d'auteur de chansons, ici de chansons populaires. On a l'impression dans votre documentaire que votre père pratique ce métier comme un autre métier, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas nécessairement, n'a pas vraiment de prétention artistique avec un grand A. Il était ouvrier, on va évidemment revenir sur son parcours, mais il était ouvrier à l'usine tout au long des années 60. Et puis, on a l'impression que faire des tôles, il était contremaître dans une usine liégeoise de métallurgie, et faire une chanson, c'est presque la même démarche, très précise, très pointue, très systématique, très ciselée. Et on le voit dans votre documentaire, la façon dont il construit ses chansons, c'est quelque chose de, vous le dites, vous l'avez dit, assez répétitif, au même titre qu'un travail peut-être à la chaîne dans une usine.
Oui, je ne ferai pas un lien direct entre le travail à la chaîne et son travail de création, parce que je pense que dans son travail d'écriture, comme il le dit d'ailleurs dans le film, si c'était répétitif, il entend le mot répétitif comme quelque chose de redondant et qui ne se renouvelle pas. Il ne l'aurait pas fait. Je pense qu'il y trouve, il y a toujours trouvé quelque chose justement de passionnant et une recherche continuelle sur un même thème. Et de ça, on pourrait rapprocher les schémas des tragédies grecques qui sont toujours formés sur un même thème. C'est un schéma qui est toujours le même, mais au sein de ce schéma, on trouve des différences, et c'est ces différences qui amènent le bonheur de la répétition, en fait, où on se retrouve proche parce qu'il y a une sorte de rassurance quand le schéma est toujours le même, et on est rassuré, on est bien, et alors on a cette petite joie et ce plaisir d'aller chercher les multiples différences, et du coup, en développant, je pense, dans toute sa carrière un thème, il a pu être à la recherche de toutes les différences au sein de cette répétition.
Et ce thème, on vient de l'entendre avec cette chanson de Frédéric François, c'est évidemment l'amour.
Oui.
Alors, pourquoi ce thème? Alors, il faut un petit peu expliquer l'origine de la carrière de votre père. Elle est un petit peu due au hasard, en tout cas due à une rencontre avec Frédéric François, qui est plus jeune que lui, qui est un voisin. Et votre père écrivait déjà ce qu'on pourrait appeler des poèmes.
Oui, il avait 16-17 ans, il était chez lui sur la table de la cuisine. Bon, ils avaient une petite maison ouvrière, il vivait avec ses parents et ses frères et sœurs.
Il avait rejoint son père à 3 ans, c'est ça ?
C'est ça,
son...
il est arrivé donc, à Tilleur, dans la région liégeoise, à l'âge de 3 ans, pour rejoindre, donc avec sa mère et déjà ses frères et sœurs plus âgés, pour rejoindre mon grand-père, donc, qui est venu travailler dans la mine. Voilà, il a fait sa scolarité en français à Serein. Et puis, à 16-17 ans, il écrivait des poèmes. Et un jour, Francesco Baracato, qui était son voisin et l'ami de son frère plus jeune, François, est passé à la maison, donc chez lui. Et il a vu le poème qu'il avait écrit, qui était sur le coin de la table. Et il lui a dit, est-ce que je peux utiliser ton poème et le mettre en musique ? Et mon père, qui était un peu, quand même plus âgé, puisque Francesco devait avoir 13-14 ans, lui dit oui. Et il a pris le poème et il est revenu le lendemain et il avait mis de la musique dessus et il lui a chanté son poème. Et pour mon père, ça a été une révélation. Il s'est dit, mais c'est formidable, je veux faire ça. Et donc, ils ont commencé à ce moment-là. Ils étaient tout jeunes tous les deux. Et donc, Frédéric François écrivait la musique et mon père les paroles.
Et alors, c'était déjà des poèmes d'amour. Adolescent, votre père écrivait déjà sur l'amour.
Alors, adolescent, mon père, je pense, se cherchait et écrivait... Il était très, très fan de Jacques Brel, comme il dit, le plus grand des poètes. Et donc, il écrivait sur plusieurs thèmes et il s'inspirait de Brel, Adamo. Les chansons d'amour, exclusivement d'amour, sont venues plus tard parce que Frédéric François lui a demandé d'écrire sur ce thème-là. Et il lui a dit, voilà, tu me fais des chansons d'amour et on y va et on est parti ensemble. Et donc, mon père a accepté tout de suite et...
Et le succès a été pas immédiat. Votre père a encore cumulé son travail d'ouvrier qualifié et puis
pendant des années,
d'auteur.
Oui.
Et puis c'est au début des années 70 que le succès là devient grandissant. Il y a une scène assez révélatrice, je pense, de la façon dont cette carrière s'est construite, un petit peu pas vraiment par hasard, mais sans vraiment le vouloir, puisque il apprend. Quelles vont être ces royalties et il est complètement stupéfait par le montant qu'on lui avance.
Oui, tout à fait.
Et il va démissionner dans la journée de son métier de contremaître, alors qu'il faisait une belle carrière d'ouvrier.
Il avait une belle carrière, oui, mais ça faisait 10 ans qu'il travaillait ensemble avec Frédéric François à essayer de percer, comme on dit dans la chanson. Et le jour où il a appris par Paul Severs, un chanteur flamand de l'époque avec qui il travaillait aussi, qui lui avait déjà fait un premier succès et donc pouvait plus ou moins estimer voilà, le montant qu'il allait gagner en droit d'auteur, qui lui a dit combien il allait gagner. Il a réfléchi toute la nuit et puis s'est dit, mais je ne veux pas continuer à l'usine, je veux faire de parolier mon métier. Et donc il a donné sa démission.
Souvent, tu me disais, tes retards et tes colères, pardonne tout, mais jamais, oh non, jamais, je ne supporterai une femme entre nous.
On comprend toujours quand c'est trop tard, quand tout est fini pour tous les deux, et malgré qu'on garde un peu. mon café noir. Ta dernière photo entre les mains.
Frédéric François, on comprend toujours quand c'est trop tard. Des paroles de Rosario Marino. On est toujours en compagnie de Rachel Marino, la réalisatrice du documentaire Parolier, consacré donc à son père Rosario, l'auteur de cette chanson que nous venons d'entendre, une chanson d'amour, mais aussi une chanson de chagrin d'amour. Et il y a une scène absolument magnifique dans votre documentaire, Rachel, notamment parce qu'elle met aussi en exergue vos talents d'animatrice. C'est que vous nous expliquez qu'adolescente, vous avez eu un chagrin d'amour. Vous avez écouté cette chanson sans savoir que c'était votre père, l'auteur des paroles.
Oui, en fait, pour mon premier grand chagrin d'amour, j'avais évidemment tous les disques et les 33 tours à la maison de Frédéric François. Bon, je savais évidemment que mon père avait écrit les paroles des chansons de Frédéric François, mais pas de toutes les chansons. Mm-hmm. Donc en fait, je ne regardais pas spécialement lesquelles il avait écrites ou pas. Et donc voilà, j'avais 14 ans, j'ai eu un grand chagrin d'amour et j'ai écouté cette chanson en boucle pendant quelques jours, le temps de me remettre de mon chagrin. Et c'est vraiment plus tard, c'est vraiment en fait même en préparant le film, que je me suis dit, mais j'ai écouté cette chanson et c'est mon père qui l'a écrite et ça fait un drôle d'effet.
Mais du coup, on a l'impression que vous avez évidemment baigné dans cet univers musical, mais on n'a pas l'impression que vous écoutiez, que votre père vous faisait écouter en boucle toutes ces chansons. On n'a pas l'impression que c'était... Toute la vie tournait autour de son métier, ça restait un métier.
Non, oui, bien sûr, c'était un métier. Non, la vie ne tournait pas autour de ça. J'avais un papa très présent à la maison, puisqu'il travaillait et il écrivait ses paroles à la maison. Mais voilà, il faisait ça, c'était son travail. Et puis, quand il venait nous rechercher à l'école, on ne suivait pas... son métier de près. Il faut dire aussi que quand j'étais un peu plus grande et que j'aurais pu me rendre compte de ce qu'il faisait, il avait déjà arrêté plus ou moins de travailler avec Frédéric François. Et il était... moi, j'ai vraiment vécu plus amplement la période Sandra Kim, en fait, avec qui je jouais, puisqu'on avait quasiment le même âge. Mmh. Et donc... ça, c'était plus clair pour moi. Bien que, Frédéric François, c'était un ami de la famille, et ses enfants aussi. Enfin, c'est lui qui a suggéré mon prénom, donc c'est grâce à lui que je m'appelle Rachel. Je veux dire, c'était... Et on allait le voir à l'Olympia, etc. Mais c'était...
Avec votre regard d'enfant, vous n'aviez pas le sentiment que votre père était l'auteur de chansons incroyablement populaire. C'est vrai qu'on a peut-être du mal à s'imaginer 30 ou 40 ans plus tard, mais c'est ici, on parle de plusieurs millions de chansons, de 45 tours, de 33 tours vendus.
Moi, je le savais, mais c'était pas quelque chose de... Voilà, je le savais, mais on n'en faisait pas une histoire, en fait.
Et on n'a pas le sentiment que votre père en fait aujourd'hui une histoire. Dans votre documentaire, on sent pas trop la... On sent aucun cynisme, ce qui est d'ailleurs assez rafraîchissant puisqu'on a une représentation contemporaine du monde de la musique très, très cynique. Et on ne sent pas énormément de nostalgie non plus. On n'a pas l'impression que votre père vit dans ses souvenirs glorieux. Il y a une scène, alors voilà, l'adjectif, n'y voyez aucune malus, mais une scène un petit peu pathétique où il veut vous faire écouter un disque d'or sur une installation, je dirais, nos studios de Radio Panique sont le top de la technologie par rapport à sa platine, et puis ça marche pas, et puis c'est pas grave, et puis voilà, on n'a pas l'impression qu'il vit entouré de ses souvenirs et qu'il regrette cette période.
Non, bien sûr, mon père n'est pas du tout une personne nostalgique, mais alors pas du tout, il est...
Ce qui est assez frappant par rapport à la tonalité de ses chansons, qui peuvent susciter une certaine nostalgie.
Qui peuvent susciter une certaine nostalgie, mais je pense qu'il est, comme il le dit, Frédéric et lui ont toujours essayé de donner 3 minutes de bonheur aux gens, donc c'est plutôt dans... C'est un hyper positif, en fait. Et quand vous parlez de la scène du disque d'or, c'est une proposition que je lui ai faite. Enfin, les disques d'or, ils sont rangés quelque part dans la cave. Lui, il ne les expose pas. Et donc, je lui ai proposé d'écouter parce qu'en fait, je lui ai demandé s'il savait ce qu'il y avait comme chanson sur un disque d'or. Et à l'époque des repérages pour le film, et il m'a dit non. Et il avait une théorie. Il me dit, mais je pense qu'ils reprennent des disques qui sont normalement... Enfin, que les maisons de disques ne vont plus utiliser parce qu'ils ne se vendent plus. Et qu'on les met au pilon. Quand les disques ne sont plus vendus, malheureusement, on les met au pilon. Il dit, je pense qu'on reprend donc ces disques qui ne seront pas les invendus et qu'on les recouvre d'une couche d'or, qui est en fait, me dit-il, pas une couche d'or, puisqu'ils ont eu des voleurs qui sont venus à la maison pour voler les disques d'or et qui en ont plié un et qui se sont rendus compte que ce n'était pas de l'or. Et donc là, mon père s'est rendu compte aussi que ce n'était pas de l'or. Et donc, il me raconte ça et je dis, mais est-ce que ça t'intéresserait qu'on écoute un disque d'or pour voir ce qu'il y a dessus? Et donc, voilà, cette installation n'est pas son installation IFI à lui, c'est une installation que je lui ai proposée pour écouter le disque.
Et pour la beauté, en tout cas le caractère un peu drôle de l'image, j'imagine.
Oui, et puis voilà, parce que c'était une vraie curiosité. Et je me suis dit, ça peut peut-être intéresser aussi d'autres personnes de savoir ce qui se trouve sur un disque d'or. Et on le découvrira dans le film.
Oui, eh bien, je l'ai découvert aussi. Ça restait pour moi aussi un grand mystère. Qu'est-ce qu'il y a sur ces disques d'or? C'est vraiment des disques, c'est vraiment de l'or. Vous venez de répondre à mes questions. Aucun cynisme de la part de votre père? Vraiment une grande insouciance quand même, et on voit d'ailleurs des images d'archives où voilà, ça a l'air très très léger. Est-ce qu'il continue à suivre l'actualité musicale aujourd'hui, la variété française, la variété francophone en tout cas, et est-ce qu'il a un regard sur l'industrie de la chanson populaire aujourd'hui?
Oh, je pense qu'il la suit de loin en loin, mais je ne connais pas bien son regard sur les chansons d'aujourd'hui. Je pense qu'il affectionne toujours un type de chanson. Et puis, non, je ne connais pas bien son regard. Écouter à la maison, quand on écoute de la chanson, on écoute de l'opéra italien. Donc, je ne connais pas.
Mmh. Pas d'interprète privilégié aujourd'hui, chez lui, contemporain?
Ben, je ne vis plus avec mon papa. Et donc, je ne sais pas ce qu'il écoute comme chanson, je dois bien vous dire.
Et les repas de famille, donc c'est plutôt opéra italien.
Oui, on écoutait la musique italienne.
Prends tes baskets, j'ai les clés de la voiture. On a un mois pour faire la fête et partir à l'aventure. Ce soir je t'emmène au soleil, ici on est sans fortune. Je veux voir la mer, les oiseaux qui s'éveillent et t'embrasser sous un rayon de lune. De Venise à Capri, dans toute l'Italie, l'amour c'est toujours la même chanson. Viens, partons tous les deux, seuls en amoureux, comme au premier jour avec nos illusions. De sur le
plus beau de tous les voyages. Et je te dirai chaque nuit, je n'ai jamais eu qu'un bonheur, c'est de t'avoir rencontré, petite fille, c'est de t'avoir aujourd'hui sur mon
à Capri, Frédéric François. Des paroles de Rosario Marino. On est toujours en compagnie de Rachel Marino, la réalisatrice du documentaire Parolier, consacré donc à son père, le parolier de Frédéric François, le parolier de cette chanson. Si j'ai choisi cette chanson, Rachel, c'est pas seulement parce qu'elle date de l'année de ma naissance, 1977, pas seulement non plus parce que j'ai eu l'immense plaisir d'être à Venise la semaine passée, d'y passer quelques jours, mais c'est aussi parce que cette chanson, elle illustre quelque chose de vraiment passionnant dans votre film. C'est l'idée que pour les immigrés italiens, la chanson française va être non seulement l'occasion de s'intégrer, on y reviendra, mais aussi de donner peut-être une autre image de l'Italie, de renverser certains clichés et en tout cas d'exalter une certaine identité italienne. On l'entend ici dans cette chanson, il y en aura d'autres plus drôles, on peut penser à Chicago qui se joue des clichés de la mafia. Voilà, c'est quelque chose que vous vouliez mettre de l'avant et que votre père revendique, cette, la participation de la chanson populaire d'origine italienne en français pour un petit peu sortir des clichés. On est dans les années 70, le racisme anti-italien est quand même encore fort présent dans la société belge.
Oui, pour préparer le film, j'ai rencontré Piero Galloro, qui est un professeur de sociologie à l'Université de Lorraine. Et en fait, parce que en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé un de ses textes qui analysait en partie Chicago. Donc le texte qu'a écrit le texte des chansons, de chansons qu'a écrit mon père. Et donc je l'ai contacté et en fait, pour Piero Galloro, certains Italiens sont des entrepreneurs de conscience. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour lui, en fait, certains Italiens, sans en avoir conscience, permettent aux autres de se dire que sortir de sa condition est possible. Et donc, pour lui, mon père, Frédéric François, Claude Barzotti et d'autres sont les premiers, en fait, à avoir utilisé les clichés de l'italien, crooner, etc., à leur avantage. Donc, au lieu de stigmatiser l'italianité, ils nous ont tourné leur italianité à leur avantage. Et donc, voilà, donc c'est des figures emblématiques de l'immigration italienne, mais qui n'en ont pas conscience. C'est une analyse a posteriori par un professeur de sociologie de l'université. Je veux dire, eux n'avaient pas conscience de ça. Je pense que eux, je sais pour mon père, l'idée c'était de sortir de sa condition. Voilà, ils étaient 12 dans la famille, 12 frères et sœurs. Je veux dire, lui avait, je ne sais pas pourquoi, la plus grande envie, enfin en tout cas cette envie-là, par ce chemin-là, par ce biais-là, parce qu'il a essayé tout. Il a essayé le théâtre, il a essayé la musique, il a essayé de jouer lui-même du piano, de chanter. Il avait un groupe dans lequel il chantait. Il a essayé le football, et puis comme il dit très bien, bah, au football j'étais pas très bon, donc quand on est italien, immigré italien, pour sortir de sa condition, soit on devient footballeur, soit on devient chanteur, dit-il. Et voilà, donc à l'époque, bah lui, il a eu, c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui saisit sa chance. Quand vous dites les hasards, qu'il a rencontré Frédéric François et que c'est les hasards de la vie qui ont fait qu'il devient parolier, moi je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui provoque sa chance et qui provoque son hasard, mmh. et qui a saisi cette chance-là. Ça aurait pas été celle-là, je pense qu'il aurait saisi une autre.
Mmh. Et en même temps... Il y a, comme vous le dites, c'est une analyse a posteriori parce qu'il y a aussi, dans cette volonté d'intégrer, au départ, un refus de l'italianité quelque part. Il travaille son accent, et c'est bizarre, peut-être que je n'ai pas réussi à l'identifier, mais j'ai vu aucun morceau écrit en italien par votre père. Il a jamais écrit en italien.
Non, mais l'italien, en fait, n'était pas sa langue... Il parlait français, mmh. parce qu'à la maison, sa mère lui parlait sicilien et son père napolitain. Donc okay. En fait, l'italien lui-même, oui. Il ne le connaît pas assez bien pour écrire en italien. Et donc, il a écrit en français. Et effectivement, il a travaillé son accent, il a travaillé son écriture. Donc, il s'est construit, mais très jeune, mmh. à 10, 11 ans, il a décidé de ne plus avoir d'accent. Il avait cette conscience-là que s'il voulait... Pour changer, pour transformer sa vie, il devait changer lui-même quelque chose.
Mmh. Et le rapport à la langue est vraiment fondamental à la fois dans le parcours de votre père et puis dans ce qu'il représente comme volonté d'intégration. C'est assez fascinant. D'où ça vient ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents, vos grands-parents lui parlaient encore en italien, en sicilien, en napolitain. Et donc, ses frères et sœurs partageaient aussi cet amour de cette nouvelle langue, enfin de cette nouvelle langue, de la langue française.
Oui, mes oncles et tantes parlent parfaitement le français. Je pense qu'ils se sont très bien intégrés. Je pense mm-hmm. que simplement, ils avaient tous, enfin plus ou moins tous, l'envie de culture et de d'intégration et voilà, de pouvoir... De pouvoir vivre à travers le français et ce qu'on leur donnait à l'école et ben, de pouvoir, oui, apprendre des choses et vraiment sortir de leurs conditions. Je ne peux pas dire mieux parce mmh. qu'ils ont tous un chemin intéressant et remarquable. Et tous mes oncles et mes tantes sont des personnes cultivées qui ont... Ils n'ont pas fait l'université, ils n'avaient pas l'occasion. Enfin,
mmh. C'était pas... C'était même pas envisageable à l'époque.
Bah, c'était pas tout à fait possible. Mmh. Non, quand on a une grande fratrie et qu'il n'y a que le père qui travaille à la mine pour nourrir toute la famille, c'est un peu difficile. Mais ils ont fait voilà, ce qu'ils pouvaient avec les conditions qu'on leur donnait et ils ont fait au mieux.
Et vos grands-parents sont restés en Belgique après leur retraite
Oui, ils sont restés en Belgique tous les deux. Ils sont décédés aujourd'hui, mais ils sont restés en Belgique.
Et vous-même, quel est votre rapport à l'Italie? Votre père vous a appris le sicilien, vous allez régulièrement en Sicile, vous avez j'imagine encore de la famille en Sicile.
Alors quand j'étais enfant, on disait que c'était pas bon de parler deux langues à un enfant, parce que mm-hmm. les théories changent mm-hmm. continuellement. Et donc mon père ne m'a pas parlé italien, il me disait quelques mots comme dors bien, dormite bene, bambine, dormez bien les enfants, mais je n'en connaissais pas plus. On partait peu en Italie, alors que j'ai des cousins, des cousines qui partent chaque année en Italie. Et mes parents avaient plutôt envie chaque année de partir dans un pays différent, de voyager. Donc on partait toujours en vacances dans différents pays. Mais alors plus tard, je suis partie habiter pendant 3 ans en Italie pour apprendre l'italien. Là, je me suis vraiment immergée dans la langue, j'ai appris l'italien. Je pense même qu'à cette époque, je parlais peut-être mieux italien que mon père, parce que lui parle très bien sicilien, mm-hmm. en fait. Mais je ne sais pas, maintenant, ça fait tellement d'années que je suis revenue que je pense que mon italien n'est plus très bon. Mais voilà, je suis partie 3 ans vivre à Rome pour apprendre l'italien et faire d'autres choses aussi. Et puis quand je suis rentrée, alors petit à petit, j'ai accompagné souvent mon père et ma belle-mère qui partent chaque année plusieurs fois par an, même 3-4 fois par an, en Sicile dans la famille. Et donc, on les rejoint souvent.
De quelle région en Sicile ?
Trapani.
Ok. Eh bien, on va écouter un morceau d'un chanteur italien et sicilien, Franco Battiato.
Battiato.
Voilà. Vous connaissez.
Si.
Elle a mort 1968. C'est à peu près au début de la carrière de votre père. Et c'est vrai, vous venez de nous le dire. Donc, on écoute de la chanson italienne quand même chez vous. Et durant votre enfance, c'était aussi quelque chose qui passait la maison ?
On n'écoutait pas beaucoup de musique à la maison parce que c'était le travail de mon père. Et donc, dès qu'on mettait des chansons, il travaillait dans sa tête. Donc, on écoutait nos chansons au Walkman ou dans nos chambres.
Franco Battiato est la mort.
Guarda le sere che passo se non sei con me, sempre qui, forse non so dove andare da solo così, che si fa? È l'amore che mi prende piano piano. Scende lentamente. Come son lunghe le sere d'autunno se non sei con me. Forse non so più restare da solo così, senza te. È l'amore che mi prende piano piano per la mano, mentre l'acqua dietro i vetri già discende lentamente.
Vous êtes toujours sur le 105.4 FM Radio Panique. On va tout doucement clôturer notre entretien avec Rachel Marino, la réalisatrice du documentaire Parolier que vous aurez l'occasion de voir ce soir et puis ces prochains jours au cinéma Palace à Bruxelles. Et puis il y a d'autres projections prévues, notamment ce dimanche 18 octobre à Nivelles au Ciné 4. Toutes les informations sur les projections de ce film sont sur le site internet radiopanique.org et puis les liens vers la bande-annonce, la page Facebook qui lui est consacrée. Rachel, on a bien compris que votre documentaire, c'était aussi, sinon surtout, finalement, c'est moins l'exploration du monde, de la variété française francophone des années 70 et 80 qu'aussi... Je ne vais pas dire une lettre d'amour, mais enfin le portrait assez touchant d'une relation intime entre une fille et son père. Néanmoins, cette période de la chanson, elle fait l'objet de pas mal de documentaires ces dernières années. Elle fait aussi l'objet d'une certaine réhabilitation culturelle. Hein. On a évoqué des travaux d'universitaires qui s'en emparent pour expliquer certaines évolutions sociales. Vous vous inscrivez dans cette démarche-là ? Vous avez vu ces documentaires ? On peut penser au documentaire d'Olivier Monsens sur la scène de Moucron, etc. C'est quelque chose qui vous a inspiré ? On peut aussi penser au film... cette fois-ci de fiction, enfin de faux documentaire Guy de Alex Lutz, qui était aussi un portrait imaginaire d'un compositeur, chanteur, interprète de variété française de ces années-là. C'est des films, des sources d'inspiration.
Mon objectif n'était pas tant de réhabiliter la chanson populaire que de brouiller peut-être les frontières entre art et populaire, mais surtout mon objectif avec le film c'était d'explorer ce que c'est la construction, l'écriture d'une chanson. Donc la mise au travail, comme vous l'avez dit au début de l'interview, la mise au travail comme un ouvrier se mettrait au travail pour construire des tôles galvanisées, comme n'importe quelle mise au travail. Et donc je pense que les chanteurs populaires et les compositeurs, les auteurs se mettent au travail comme les plus grands artistes. Et je pense que c'est cette énergie de travail-là, dans la continuité, qui pour moi a autant de valeur pour, en général. Et c'est cette chose-là que j'avais envie de mettre en lumière, c'est ce travail. Je connais de nom les films dont vous avez parlé, je ne les ai pas vus. Enfin, je crois avoir vu Guy, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question dans ce sens-là. En fait, j'ai réfléchi vraiment en une approche de qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire de l'art, de la création ou de l'artisanat. Et je pense que c'est cette exploration-là que j'ai voulu faire. Quand je suis allée trouver mon père, au tout début du projet, je lui ai demandé qu'il me montre ses outils de travail. Voilà, je lui ai dit, est-ce que je peux filmer tes outils de travail pour comprendre un peu quel était ton travail? Et il m'a dit, oui, tu peux filmer les outils. D'ailleurs, il m'a dit, mais pas moi, je ne veux pas faire partie d'un film. Et puis, petit à petit, je relevais la caméra vers lui, tout doucement. Et puis, un jour, il m'a dit, ça va, j'ai compris, tu m'as attrapé. Et j'ai dit, oui, merci.
Ah oui, donc, au départ, le projet n'était peut-être même pas qu'il apparaisse
c'était
à l'image.
Bah, c'était pas au départ, mais bon, ça remonte vraiment aux prémices du projet. C'était pas un portrait, mais j'ai découvert tellement de choses. En fait, c'était vraiment... au départ, une recherche par rapport à la mise au travail de l'écriture d'une chanson, par rapport à ma propre mise au travail, à la mise au travail en général de création. Et puis, en fait, j'ai découvert un monde. J'ai découvert le monde de la chanson populaire, de l'écriture de la chanson d'amour. J'ai découvert le monde, j'ai découvert mon histoire. Parce que mon père nous racontait très peu, en fait, son histoire, son arrivée en Belgique. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, je l'ai découvert en explorant son travail. Donc,
on sent que c'est quelqu'un de très pudique.
Oui, c'est quelqu'un de très pudique.
Cette question du travail, cette question de la création, c'est quelque chose qui va animer vos prochains projets ? Ou c'est, voilà, vous en aviez besoin pour votre construction personnelle, identitaire presque, et puis vous allez passer maintenant à d'autres types de projets, de thématiques ?
Ce qui m'intéressait, c'est d'explorer donc, par le sujet et le biais d'un portrait de mon père, mon propre intérêt en réalisation et en animation, puisque je fais des animations. Et donc, dans mon prochain documentaire, je développerai aussi des animations et voilà, ces formes.
C'est donc plus une réflexion formelle ?
C'est plus une réflexion formelle, oui, mais je pense avoir appris beaucoup de choses qui me permettent de continuer mon travail aujourd'hui.
Merci beaucoup Rachel Marino, ça nous a fait vraiment plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
On rappelle donc ce soir au Cinéma Palace, première de Parolier, formidable documentaire, vraiment extrêmement drôle, extrêmement touchant, sur votre père, l'auteur, le parolier, décidément, de l'interprète Frédéric François. Alors, on va se quitter, j'ai décidé de me faire un tout petit peu plaisir, Rachel, c'est sans doute pas la chanson la plus je dirais, la plus glorieuse de votre père. C'est une adaptation, vous l'avez évoqué, de J'aime, j'aime la vie, de Sandra Kim. Ben vous savez, moi, j'avais 10 ans en 1986 et ça a été pour... comme pour la plupart des hommes de ma génération, le plus bel été de mon existence. Non seulement la Belgique avait gagné l'Eurovision, mais en plus, les Diables Rouges avaient brillé au Mexique, à la Coupe du Monde. Et bah, quelques mois après ce double triomphe, est apparu, bah, évidemment, un poster de Jean-Marie Pfaff, le gardien de l'équipe nationale de football, élu meilleur gardien du monde à l'époque, en 1986. Et dans mon manche-disque de couleur rouge, il y avait ce 45 tours, qui était une version un petit peu potache de J'aime, j'aime la vie, mais transformée ici en Jean-Marie. On va se quitter avec cette chanson qui va me rappeler bah, parmi les plus belles semaines de mon existence. Et puis on va rendre l'antenne. Juste après nous, ce sera Strange Fruits, le jazz le plus pointu, le jazz d'avant-garde. Entre Frédéric François et le jazz d'avant-garde, eh bien, c'est la magie de Radio Panique. C'est pour ça que vous nous écoutez. C'est pour ça que vous êtes à l'audition du 105.4 FM. À tout bientôt.
Merci Julien.
Au revoir.
Dans le mondial, oh oh Jean-Marie,
Jean-Marie, le Jean-Marie,
pour ses exploits à Mexico, nous lui disons un grand bravo, car dans nos cœurs c'est le plus grand et le plus beau.
Jean-Marie, Jean-Marie,
un super champion,
Jean-Marie, Jean-Marie,
c'est le roi du ballon,
Jean-Marie, Jean-Marie.
Il joue comme un mal.